Info sur Radio Kapi. Une heure pour parler des réalités kinoises, de 16h à 17h, heure de Kinshasa. L'information de proximité en lingala et en français. Société, santé, environnement, économie, culture, sport et politique. Décryptage de l'actualité dans la capitale, vos communiqués et offres d'emploi, c'est dans Info Service. Au menu également, de la détente avec des humoristes de Kinshasa. Le décrochage de Kinshasa, c'est Radio Kapi, près de chez vous.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine de la vie au quotidien au Kapi Service. Nous parlons aujourd'hui de la perforation intestinale. Bien, quelles sont les causes et symptômes? Eh bien, sachez que parmi les maladies qui constituent une urgence médicale, on cite la perforation intestinale. Celle-ci s'est traduite par un trou, une fente dans la paroi d'une partie de l'intestin. Alors, quelles sont les causes de cette maladie, de cette perforation des intestins, et comment se manifeste-t-elle? Eh bien, nous aurons des réponses à toutes ces questions dans quelques instants avec notre invité, docteur Antoine Chimpi, spécialiste en gastro-entérologie, donc il s'occupe de toutes les maladies qui touchent les systèmes digestifs. Docteur Antoine, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, perforation intestinale, de quoi s'agit-il?
Vous l'avez très bien décrit. Bonjour en tout cas à nouveau et bonjour à tous nos auditeurs. Vous l'avez très bien expliqué, hein, c'est une brèche ou un trou, une perforation. On fait une ouverture à travers, en général, des organes qu'on appelle, dis-nous, les organes creux. Et plus fréquemment, préférentiellement, ça va être l'estomac et le duodénum, la première partie du tube digestif après l'estomac. C'est plus fréquemment à ce niveau, mais on peut aussi en avoir au niveau du côlon ou du rectum, un peu moins fréquemment. Et on peut perforer d'autres organes. Il n'y a pas que le tube digestif. On peut avoir des perforations du tympan, par exemple. On peut avoir une perforation des poumons. On peut avoir une perforation du cœur. Ça dépend des causes. Mais le plus fréquemment, c'est vrai, c'est des perforations digestives et, en premier lieu, l'estomac et le duodénum.
Alors, qu'est-ce qui cause cette perforation? Quelles sont les raisons qui peuvent amener ces trous, à avoir ces trous au niveau des intestins?
Alors, en général, les causes les plus fréquentes sont connues. C'est quelqu'un qui a un ulcère de l'estomac qui ne s'en occupe pas ou qui le soigne mal. Je vais vous donner une image, c'est-à-dire si vous prenez 100 personnes qui ont des ulcères de l'estomac, il faut savoir, vous divisez en deux groupes. Vous avez 50 personnes qui ont de temps en temps des douleurs, de temps en temps des brûlures, des remontées ou une gêne après manger. Le piège, c'est que l'autre groupe des 50 qui restent, ils peuvent ne pas avoir des symptômes du tout. Et donc, on peut avoir un ulcère de l'estomac et ne pas avoir des symptômes. Et le jour, ça va se révéler. Ça va se révéler par une complication. Un ulcère, c'est une plaie de la paroi qui va donc continuer à se creuser petit à petit, comme un mur, hein, vous creusez petit à petit. Si on les soigne pas, le mur finira par faire un trou. Et là, on arrivera à une perforation qui sera, dans ce cas-là, la révélation de la maladie. Mmh. Mais il y a le groupe, le premier, où lui, il a des symptômes de temps en temps, mais qui soigne mal ou qui ne soigne pas. Quand ils vont bien, ils arrêtent le traitement, ben, ils prennent de risques de finir vers une perforation de l'estomac ou une perforation du bulbe duodénal.
On peut dire que les gens qui souffrent de cette maladie qu'on appelle communément estomac peuvent arriver à cela?
Oui. Le problème, c'est lui-là. Les gens disent, docteur, je souffre de l'estomac. Nasa n'a pas d'estomac. D'abord, il faut qu'il soit examiné par un médecin qui confirme d'abord que la douleur, la gêne qu'ils ont est bien liée à leur estomac, qui va faire la part des choses parce que dans l'estomac, il y a plusieurs sortes de maladies. Et s'il pense que dans l'estomac, il y a un ulcère ou il y a une gastrite, il va vous dire quel traitement il faut faire ou quel examen il faut faire avant un traitement. C'est pour éviter donc les complications qui peuvent être graves, notamment la perforation que vous avez très bien décrite tout à l'heure.
Voilà. Donc, d'autres causes?
Alors, les causes principales, on a dit effectivement, c'est les ulcères. Mais vous pouvez avoir, au niveau du côlon, nous pouvons, à partir des 45-50 ans, tous avoir des petites dépressions de la paroi qu'on appelle des diverticules. Et ces diverticules peuvent parfois s'enflammer. On va faire une diverticule et ça peut se percer. On peut faire une perforation, donc, du côlon par rapport à ça. On peut faire une perforation intestinale par un cancer. un cancer qui est évolué, qu'on découvre tard et qui peut fissurer la paroi, le mur, et donc provoquer une perforation. Voilà. Il y a le premier groupe donc de ça, mais vous avez un deuxième groupe qui sont ce qu'on appelle des perforations traumatiques. Vous faites un accident en voiture, vous êtes cogné au niveau de votre ventre, vous pouvez percer, vous pouvez trouer un organe, faire une perforation donc post-traumatique de l'estomac, de l'intestin ou même d'autres organes. Donc il y a le traumatisme qui est un facteur assez important. Nous avons les infections. Quand quelqu'un fait par exemple une fièvre typhoïde, qui est mal soigné, qui traîne. Mmh. Il faut savoir que ça finit par irriter la paroi de l'intestin et ça peut finir, une des complications possibles, c'est une perforation intestinale. Voilà. Il y a plusieurs causes, mais les principales sont là, infectieuses, traumatiques et les pathologies ulcéreuses, comme on a dit. Mais il y a plusieurs, il y a des causes médicamenteuses. Si vous prenez régulièrement des anti-inflammatoires, de l'aspirine, par exemple, et que vous ne vous protégez pas, ça peut finir par ronger petit à petit la paroi de l'estomac, donc fabriquer un ulcère. Vous avez compris tout à l'heure qu'un ulcère, parfois, on peut ne pas avoir de douleur, donc ne pas les soigner. Mmh. Et on va le révéler par une complication qui est une perforation.
Voilà. Est-ce que, par exemple, pour un enfant, le fait d'avaler des objets tranchants ou soit un morceau de fer peut perforer les intestins?
Alors exactement, c'est une excellente question. En fait, dans le groupe des causes que j'ai citées, j'aurais dû vous parler également de l'ingestion des produits corrosifs, ce qu'on appelle les caustiques, quand les gens avalent accidentellement ou de façon intentionnelle de la soude caustique.
Ou quelqu'un qui veut se donner la mort.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Quand je disais intentionnel, le suicide, oui. On peut provoquer des lésions assez importantes du tube digestif, de l'œsophage et de l'estomac, et ça peut provoquer des perforations. Alors, pour revenir à votre question sur les corps étrangers, j'ai publié moi-même un article scientifique en septembre de l'année dernière sur la gestion des corps étrangers, d'ingestion de corps étrangers, digestifs et bronchiques. Alors, paradoxalement, les objets pointus, une aiguille, une lame de rasoir, qu'un enfant peut avaler, provoquent, évidemment, il y a un risque que ça déchire la paroi, que ça provoque une perforation. Mmh. En fait, finalement, lorsque c'est très bien pris en charge, ces risques est très, très, très faible. Aussi paradoxalement qu'on puisse y penser, imaginez une aiguille. Une fois que ça franchit bien l'œsophage et l'estomac, ça va dans le duodénum et ça suit assez bien les circonvolutions.
Mais il y a des gens, on a appris, docteur, qu'à l'époque, je sais pas si ça se fait toujours, en Angola, les Congolais qui tombent sur les diamants, alors pour, n'est-ce pas, échapper à la vigilance des militaires et des soldats, des amis, ils préfèrent l'avaler par croyant, pensant que bon, il va retrouver cela dans les selles.
Exactement. Alors, si c'est un produit qui ne se délite pas, qui ne se digère pas, qui n'a pas une composante caustique, toxique pour le tube digestif, ça rentrera pas à la bouche, ça sortira par le bas. Et on connaît ça avec la mafia, parfois qui transporte de la drogue dans des sachets. Mmh. Le problème, c'est que ces sachets, une fois arrivés dans l'estomac, ben, ça va se diluer avec l'acidité de l'estomac. Et donc, le produit se déverse dans le tube digestif. Donc, on assiste à des intoxications graves pouvant mener jusqu'au décès. Donc, c'est des pratiques, évidemment, à déconseiller. Mmh. Mais les pointes accidentelles chez les enfants, où on va les chercher parce qu'ils sont coincés en haut de l'œsophage de l'estomac, ou quand ils progressent dans les intestins, bon, on surveille, parce que dans la plupart des cas, ça finit par être évacué par les matières sans faire de dégâts. Sauf s'il y a un obstacle, un stop quelque part dans les intestins, ben dans ce cas-là, quelquefois, on est obligé d'aller les chercher pour éviter des complications type perforation.
Voilà, perforation intestinale, quelles sont les causes et symptômes? Docteur Antoine Timpi, spécialiste en gastro-entérologie, est notre invité. Vous avez des questions et préoccupations, n'attendez pas les dernières minutes. Le standard est déjà ouvert, appelez-nous au 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Perforation intestinale, quelles sont les causes, les symptômes et quel est le traitement, évidemment. Docteur Antoine Chimpire, spécialiste en gastro-entérologie, est notre invité. Joël Zakissa, vous êtes en ligne depuis Mahagi. Bonjour.
Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour également à journaliste.
Bonjour, Joël.
Quelle est votre question?
Ok. Merci d'abord pour m'avoir accordé la parole parce que ça fait trop de jours que je n'intervenais pas sur les ondes de la radiopathie. J'ai des préoccupations à poser à monsieur l'invité.
Oui.
La première, comment on peut savoir qu'on a des perforations intestinales? Et la deuxième, en tant que perforations intestinales, on peut, est-ce qu'il y a-t-il des méthodes dans tous les centres, dans tous les hôpitaux de Congo, parce qu'il peut y avoir des perforations ici à Mali, ok, il n'y a pas les moyens pour pouvoir atteindre les peut-être monsieur l'invite. Alors, en tant que problèmes pareils, est-ce qu'il y a déjà des corps soignants bien formés à ces matières?
D'accord, merci. Gaël Dixon nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question, Gaël?
Ok, j'aimerais poser deux questions seulement à notre invité concernant le sujet du jour.
Oui.
La première question, c'est de savoir, parce que si on nous dit que la consommation régulière de fait de patates douces pour...
Parlez un peu plus fort, Gaël.
Oui, ici... On nous dit ici que la consommation régulière de fait de patates douces provoque aussi la perforation des intestins et aussi de l'estomac. La deuxième question est celle de savoir est-ce que si la personne ne mange pas, ne consomme pas bien la nourriture, est-ce que le manque de la nourriture dans l'estomac provoque la perforation intestinale aussi de tout?
Bien. Nous avons une autre question de Jimmy Moussenvoula qui nous a écrit sur la page Facebook du magazine Okapi Service. Il dit il est à Bunia, voilà, il veut savoir quels sont les aliments qui peuvent favoriser la perforation intestinale. Est-ce que la prise de cigarettes ou d'alcool peut aussi favoriser la perforation intestinale? Docteur Antoine.
Oui, merci beaucoup Jordi. Joël, merci de votre question. Comment reconnaître les signes de perforation? C'est simple. Hein, pour les médecins, c'est un diagnostic qu'ils doivent évoquer très facilement. Quelqu'un qui a tendance, par exemple, à avoir des douleurs de l'estomac, entre guillemets, de temps en temps, qu'il tolère et qui, brusquement, fait une douleur importante, brutale, au niveau du creux de l'estomac. Le creux de l'estomac, c'est juste au-dessus du nombril, entre le deux côtes au milieu. Une douleur brutale qui bloque la personne, quasiment qui ne peut plus bouger, qui peut ensuite vomir ou faire la fièvre. C'est une douleur dont il ne peut pas faire l'impasse. Il ne peut pas dire c'est une douleur que je supporte. Une perforation intestinale, c'est une douleur vive, il va consulter pour cela. Et quand il va consulter le médecin qui va l'examiner, rien qu'à l'énoncer des signes de la clinique que je viens d'expliquer, et quand il va mettre la main sur le ventre, juste sur l'estomac, il évoquera les diagnostics avant n'importe quel examen. Donc il n'y a même pas besoin d'examen pour l'évoquer. Après, il pourra céder à faire une radio simple qu'on appelle nous l'ASP, c'est une radio simple, l'abdomen sans préparation, c'est pas une échographie, c'est pas un scanner, une radio simple pour voir s'il y a de l'air dans le ventre à l'endroit où il ne doit pas y en avoir. Voilà, vous avez la clinique, vos symptômes que vous allez décrire, le médecin qui va vous examiner et une radio, on fait les diagnostics de la perforation intestinale qui est une urgence, mais vous l'avez très bien décrit en début d'émission. Voilà. Est-ce que il y a des médecins partout pour les prendre en charge? C'est une excellente question. C'est le problème de la couverture sur le plan des soins au niveau national. Et voilà, on a les médecins qui doivent faire le diagnostic. Après, si on établit le diagnostic de perforation intestinale, selon les cas, les causes, en général, c'est une urgence chirurgicale. Puisqu'on a dit tout à l'heure que c'était une ouverture, on a fait une ouverture à travers la paroi des murs, il y a un trou. Ben, il faut refermer ce trou. Parce que dans le tube digestif, comme on l'a déjà dit lors des émissions précédentes, le tube digestif n'est jamais vide, même quand on n'a pas mangé. Il y a toujours un peu de liquide, qu'on appelle du liquide gastrique, liquide acide, ou au niveau de l'intestin, on a du liquide un peu bilieux. Il y a toujours un peu de liquide. Si se forme un trou dans les intestins, ce trou va favoriser le déversement de ces liquides dans le péritoine. Or, tous ces liquides sont corrosifs, sont dangereux pour le péritoine, que ça va irriter, et donc on va provoquer ce qu'on appelle une péritonite, dont on a déjà parlé sur ce plateau. Mmh. Et cette péritonite est une inflammation qui va finir par une infection qui est grave, qui peut emporter la personne. Donc une perforation est une urgence. Tout médecin devrait pouvoir établir ce diagnostic dans tous les quatre coins de notre pays. J'espère ne pas avoir de doute là-dessus. Il n'y a aucun problème. Une fois le diagnostic établi, il faut un chirurgien.
Est-ce qu'on peut tout couper, une partie, et puis relier les deux autres?
Parfait. Imaginez un tuyau. L'intestin, c'est des tuyaux, hein. Il y a un trou à un endroit. Mmh. Au niveau du trou, on peut venir suturer. On peut faire ce qu'on appelle une suture simple. Refermer le trou, mmh. ou alors si le trou était trop large ou il y avait déjà un début d'infection, ben on va couper effectivement un bout de l'intestin de part et d'autre, on enlève la partie malade et on rabouche, comme j'ai dit à mes patients, on rabouche la tuyauterie, on rabouche la plomberie. Mmh. Hein, mais c'est quelque chose de très important à faire avant que le pourtour de cet intestin, c'est-à-dire le péritoine, soit infecté. C'est pour ça que la prise en charge doit être rapide. Il faut pas traîner. Si on a ces douleurs, qu'on essaie de le soigner à la maison, qu'on prend des médicaments, on fait traîner le diagnostic et donc on aggrave le pronostic qui en général peut être bon, mais là on va l'aggraver, on peut en mourir.
Mmh. Gaël de Lumbashi veut savoir, il dit qu'il a toujours entendu que les feuilles des patates, patates douces, favorisent la perforation des intestins. C'est vrai, docteur?
Je vais vous rassurer tout de suite. D'abord, les feuilles des patates douces, je crois que sont excellentes à prendre. Ils sont bons pour la digestion. ils essaient d'améliorer, en tout cas, de lutter contre la constipation. Non, et elles sont pas du tout cause des perforations. En fait, c'est l'inverse. Si quelqu'un a tendance à être constipé et qu'il a par ailleurs une fragilité au niveau intestinal, des diverticules hautes, il peut favoriser une perforation. Il peut donc, Gaël, continuer à prendre avec délectation
le fait de
patates douces. Il n'y a pas de problème.
Il dit, quelqu'un qui n'a pas mangé ou qui est à jeûne pendant plusieurs jours, est-ce que cela peut avoir des effets sur ses intestins?
Ouais, ça c'est une excellente question qu'il faut savoir. Lorsqu'on a tendance à sauter des repas, il faut imaginer que l'estomac fonctionne de façon physiologique à des horaires réguliers. C'est-à-dire, il sait globalement que le matin, le midi, le soir, nous allons manger. C'est dans notre horloge interne. Mmh. Donc, le matin, il fabrique un liquide acide de l'estomac, à midi et le soir, pareil. Maintenant, imaginons que vous avez cette habitude-là, et pour une raison ou une autre, ponctuellement ça peut arriver, mais par habitude, vous mangez le midi, le matin par exemple, et vous sautez le repas de midi, et vous mangez le soir. L'estomac, lui, il a l'habitude de fabriquer de l'acidité le midi, parce que le matin, le midi, le soir. Le midi, c'est que vous mangez habituellement, et là, vous mangez plus. Donc, à un moment, qu'est-ce qui va se passer? Lui va fabriquer l'acidité, le sucre gastrique, et vous ne mangez pas. Vous allez manger le soir. Cette acidité va se retrouver de façon excessive dans l'estomac. L'exemple que je donne à mes patients, c'est que imaginez que vous avez entre les mains de l'eau très chaude. Cette eau chaude que vous ne voulez pas jeter, au bout d'un moment, cette eau chaude va brûler vos mains. Et ça peut créer des plaies, des brûlures au niveau des mains. L'acidité excessive au niveau de l'estomac peut finir par irriter la paroi de l'estomac, fabriquer une gastrite, puis un ulcère. Et si l'ulcère n'est pas soigné, on peut évidemment, entre autres complications, aboutir à une complication. Donc oui, indirectement, si on a l'habitude de sauter des repas ou de laisser l'estomac vide de façon prolongée, ça peut générer indirectement des gastrites, des ulcères. Et on sait que les ulcères, une des complications, c'est les perforations. Voilà, maintenant, ça dépend des contextes et les gens le font prudemment, essayer de faire que ça soit pas régulier ou protéger l'estomac. Voilà.
Adi Mahamouti nous appelle de Kindou. Bonjour Adi.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité.
Bonjour Adi.
Quelle est votre question?
Oui, moi, j'ai deux petites questions que je voulais poser à l'invité. Et la première est celle de savoir, est-ce que, parce que moi, c'est un exemple qui m'a survenu depuis hier, que mon petit frère a avalé un bille à jouer. Et il a avalé en joie, il a avalé ça, il est parvenu à avaler ça. Est-ce que ce bile-là ne peut pas provoquer des conséquences dans l'intestin de ce petit-là? Parce que si j'ai suivi bien l'invité tout au début, il a dit que non, quand on parvient à avaler un corrosif ou soit il y a quelque chose qui peut créer ça, ça peut créer des problèmes au niveau de l'intestin. Ça, c'est une question que je voulais, parce que nous avons déjà fait par rapport aux explications de notre invité. Et une autre question que je voulais aussi poser à l'invité, je pense qu'il y a un prédécesseur qui m'a déjà, qui l'a déjà posé. Je voulais demander, est-ce que la consommation abusive de l'alcool, ici chez nous, on appelle communément zododo, ou soit la, l'utilisation hein, du tabac, quelqu'un qui utilise beaucoup plus du tabac consécutivement, est-ce que ça peut provoquer aussi des problèmes au niveau de l'intestin? C'était ça quelques questions que je voulais poser à l'invité. Merci.
Bien, merci Adji, docteur Antoine.
Alors, je commence par la deuxième question d'Adji que je remercie parce que ça rejoint la question de Jimmy qu'on n'a pas répondu tout à l'heure.
Tout à fait.
Est-ce qu'il y a des aliments où la cigarette, l'alcool a un effet sur l'estomac? Oui. Il est connu hein, que le tabac est un facteur des risques d'ulcères d'estomac ou des risques de complications des maladies gastro-duodénales. Donc, par ce biais-là, ça peut provoquer un ulcère et donc tout ulcère, quelle que soit la cause, a une possibilité d'évoluer vers une complication, dont une perforation. Donc c'est le même cas, quel que soit le type de l'alcool ou le type de cigarette qu'on prend, ça a des effets délétères au niveau de la paroi de l'estomac, parce que l'alcool et le tabac jouent en influençant la sécrétion, la fabrication de l'acidité de l'estomac. Donc dans ces deux cas, oui, il y a un lien direct par rapport à cela. J'ai pas très bien compris la première question d'Adi, s'il parlait de pile ou de bile. Qu'a avalé son frère.
Oui, son petit frère a avalé une bille, je crois.
Une bille. Alors, voilà. Si c'est une bille, d'abord, il faut... Donc, c'est ingestion des corps étrangers. C'est quand même important qu'un médecin, qu'il voit un médecin, au moins s'assurer de quel type de corps étranger qu'il a avalé. Parce que le corps étranger dont la composition chimique n'est pas néfaste, ça va pas se déliter, ça va pas se diluer dans les tubes digestifs, ça va passer, quelle que soit la taille. Enfin, pas, si c'est pas exagéré, moins de 5 cm avalé, surtout que si c'est rond et que ce n'est pas tranchant et qu'il n'y a pas de composition chimique, il n'y a pas d'inquiétude à avoir et ça va finir par sortir, sauf s'il y avait une complication, si le patient lui-même a une malformation de naissance, des choses comme ça, mais là, ça devient un peu particulier. Donc, l'avis d'un médecin permettra de les rassurer. Lorsqu'il y a un corps étranger, mais si c'est une pile, c'est pour ça que j'ai posé la question, dans la pile, vous savez qu'il y a une composante chimique dedans. Et la particularité des piles, lithium ou autre type de pile, quand les enfants l'avalent, ils ont tendance d'abord à s'arrêter à des endroits où il y a des petits freinages dans la progression. Et lorsqu'ils sont bloqués, par exemple, dans le bas de l'œsophage ou à la sortie de l'estomac qu'on appelle le pylore, ils ont tendance, en se mélangeant au liquide de l'intestin, de l'estomac, commence à se diluer. Et donc, quand ça commence à se diluer, ça déverse le produit chimique. Mmh. Et ces produits chimiques sont toxiques pour la paroi, la muqueuse digestive, et donc ça peut entraîner des complications. Donc, premièrement, c'est important d'être sûr de ce qu'il a avalé. En cas de doute, le docteur fera une radio simple, il va voir où est le corps étranger, et puis il va surveiller. S'il y a vraiment un corps étranger qui n'est pas une pile ou on a un doute, ben on va faire une endoscopie qui est simple, en 5-10 minutes, pour aller retirer ce corps étranger parce que on peut aboutir à des complications.
Comment le retirer par l'opération?
Ah ben ça s'est fait très simplement, c'est en dire je vais reprendre on est vendredi, c'est-à-dire lundi prochain, un enfant de 2 ans. Comme ça, je vous donne un exemple concret. J'ai fait toute une série ici. Là, c'est un enfant de 2 ans qui avait avalé. Ça va vous faire tiquer. C'était un taille crayon. Vous voyez, taille crayon qui a une partie tranchante et qui avait bloqué. Voilà, j'ai vu la tête, vous avez pas mais vu si, l'image de la tête aujourd'hui, voilà, bloquée à la bouche des
œsophages. Un enfant de quel âge?
Deux ans.
Ouh là là.
Voilà, donc vous imaginez, donc on le prend en bloc opératoire, je le prends en bloc opératoire, on les endort, et sous la petite anesthésie, un petit sommeil, on va passer, on n'ouvre pas le ventre, ni la bouche, on passe une caméra par la bouche, qu'on appelle endoscopie, et nous avons, on a plusieurs types de matériel, selon le type de corps étranger qu'on a avalé, on va essayer de le retirer. Ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 3 heures. L'objectif, premièrement, c'est d'enlever ces corps étrangers parce que ça risque de s'infecter, ça risque de perforer, aller faire une communication avec le tube digestif et le poumon. Là, c'est quasiment le décès assuré. Mmh. Et donc, essayer de le faire sans opérer parce que si on doit ouvrir la poitrine, vous imaginez une thoracotomie, comme nous l'appelons, c'est une chirurgie lourde avec des complications. Donc, habituellement par de l'endoscopie simple, on peut aller chercher et retirer le corps étranger.
Voilà. Papy Kalemar nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à notre invité.
Bonjour, Papy.
Merci beaucoup, Jody. Je trouve une petite préoccupation. La première, l'invité nous a donné la cause selon laquelle nous obtenons la perforation intestinale. Bon, il a dit que c'est un ulcère qui est provoqué à partir de l'estomac. Cet ulcère, c'est une plaie qui se développe petit à petit. Et après ces développements-là, nécessairement, la perforation peut être provoquée. Ça, c'est un, mais je ne sais pas si c'est moi qui ai pris l'émission en cours de diffusion. Je n'ai pas si quand même, mais je n'ai pas entendu les causes qui provoquent aussi cette plaie au niveau de l'estomac. Ça, c'est un. De deux, il y a une thèse selon laquelle tout celui qui a une maladie au niveau de l'estomac, ou bien tout celui qui a une maladie au niveau de l'estomac n'a jamais été guéri. Donc la maladie de l'estomac n'a jamais été guérie. Quels sont les commentaires quant à ces, quels sont les commentaires de notre invité quant à cette thèse-là qui dit que tout celui qui a une maladie au niveau de l'estomac n'a jamais été guéri. Ça se dit. De toi, est-ce que tout celui qui a une maladie au niveau de l'estomac peut-il avoir une perforation intestinale? Voilà les trois petites préoccupations que j'en avais. Merci beaucoup.
Bien, revenons d'abord à Hadji. Sa deuxième question, la consommation abusive de l'alcool, de la cigarette, docteur.
Tout à fait, on l'a
Jimmy
dit.
Aussi, on
en a parlé. Donc ce sont des facteurs favorisants d'ulcères de l'estomac et donc par voie indirecte peuvent mener vers une perforation, même si c'est une proportion faible, mais oui, l'alcool et les tabacs sont des facteurs de fragilité du tube digestif.
Voilà, Papy revient sur les causes.
Alors, Papy, donc, il a loupé une petite partie. Mmh. Alors, les ulcères, comme il a très bien décrit, sont des plaies au niveau de l'estomac, mais pas que l'estomac, ça peut être le duodénum, ça peut également être le côlon, y compris au niveau du rectum. Tout le tube digestif peut en être donc victime. Les causes principales, on a déjà fait une émission ici, c'est les médicaments, les anti-inflammatoires, nos stéroïdiens, diclofénac, voltaren, je ne vais pas citer le nom, y compris l'aspirine. Ce sont des médicaments qui ont des bénéfices pour les raisons pour lesquelles ils sont prescrits, mais ces médicaments sont la première cause au monde de fabrication d'ulcères au niveau de l'estomac.
Donc il faut les éviter.
Si
ou
on
les
peut,
prendre avec modération.
Exact, avec modération, ou en tout cas les éviter lorsqu'on a une autre option à prendre. Voilà. On a un microbe, nous tous, ça c'est l'intérêt de sa question, il y a un microbe qu'on appelle Helicobacter pylori, qu'on peut trouver dans l'estomac de nous tous, d'ordre de 20% des adultes en Europe, et qui chez nous, en tout cas dans le pays en voie de développement, on va dire, on peut aller jusqu'à 60% des adultes. Donc, je dis, si, je ne sais pas combien on est là aujourd'hui, s'il y a 10 personnes, il y a 6 qui ont ces microbes-là. C'est 60%, donc c'est énorme. Et ce microbe qu'on appelle Helicobacter pylori, il a été démontré depuis 82 qu'il était responsable de la plupart d'ulcères qu'on pouvait faire de l'estomac. Et c'est en ce moment-là qu'on a su que l'ulcère de l'estomac, c'est une maladie infectieuse. Donc si, au jeu d'ailleurs, le 2, Marshall, le 2 savants qui ont trouvé ces microbes ont eu le prix Nobel de la médecine en 2005 pour ça. Voilà. Et donc, depuis, lorsqu'on pense que quelqu'un a... Lorsqu'on sait que quelqu'un a une ulcère de l'estomac ou qu'on les suspecte, on recherche systématiquement ces microbes. Et si le microbe est retrouvé, ben on le traite. Ça se traite très facilement avec des antibiotiques. Il ne s'agit pas de faire à tout vent. Si quelqu'un va bien, qu'il n'a pas de symptômes, pas de panique. S'il n'y a pas d'antécédent d'ulcère ou de cancer de l'estomac dans la famille, pas de panique. Mais s'il y a des symptômes, ils verront le médecin qui demandera cela. Parce qu'il a été démontré que ces microbes est également donc responsable, par le biais de l'ulcère, il est responsable des cancers de l'estomac. Donc c'est voilà les causes, le médicament essentiellement, l'infection qui est la principale cause, mais il y a toutes les autres causes, on a parlé des caustiques tout à l'heure, on a parlé de certains aliments, l'alcool, tabac, qui sont des facteurs favorisant, la liste est longue.
Et quelqu'un est revenu, il y a un auditeur qui nous a écrit, il dit, on dit souvent que la fièvre typhoïde est la cause principale de la des perforations intestinales. Donc,
non, c'est pas une cause principale ou la plus fréquente, pas du tout, mais l'intérêt de sa question, c'est de dire de bien prendre en charge la pathologie typhoïde quand même. Et donc, savoir que c'est une maladie qui peut se prendre en charge aisément, qui se soigne facilement lorsqu'on fait les choses à temps, justement pour éviter des complications, notamment complications potentielles possibles qu'est la perforation. Mais ce n'est pas la complication, je vais dire, courante, fréquente, dans la mesure où on les prend correctement en charge.
Voilà.
Alors,
Et un autre auditeur, vous avez répondu à toutes ces questions? Non,
pas encore. Il y a Papy Kalema qui avait parlé de la thèse que les maladies de l'estomac ne guérissent jamais.
Oui.
Alors, je vais redire à Papy qu'il faudra revoir cette thèse, hein, parce que cette thèse-là est fausse. Quand vous avez un ulcère de l'estomac, Papy, l'ulcère de l'estomac, les médicaments les guérissent complètement. Alors, je vais pas dire 100%, en médecine, on dit jamais 100%, mais de plus d'en plus de 95%, vous allez voir un médecin, il vous soigne au bout de 1 à 2 mois. L'ulcère doit être totalement guéri. C'est très clair. En fait, quand les gens disent que le maladie de l'estomac n'est guéri jamais, il faut d'abord savoir s'ils ont fait la démarche qu'il faut. Est-ce qu'ils ont vu le médecin? Est-ce qu'ils ont vu le médecin qui a fait la bonne démarche? C'est-à-dire qui peut-être a essayé un premier traitement. Et quand le traitement on est amélioré ou ça ne suffit pas, il faut faire une endoscopie. C'est très important. En médecine, ce qui est le plus difficile, c'est le diagnostic. C'est pas le traitement. Il faut savoir pourquoi vous avez mal à l'estomac. On peut avoir mal à l'estomac parce qu'on a une gastrite simple. On peut avoir mal à l'estomac parce qu'on a une dyspepsie. On peut avoir mal à l'estomac parce qu'on a un gros ulcère. On peut avoir mal à l'estomac parce qu'on a un cancer. On peut avoir mal à l'estomac parce qu'on a un problème de fonctionnement de l'estomac. C'est la cause d'abord. Et une fois qu'on connaît la cause, on va traiter de façon orienté. La plupart des maladies de l'estomac, Papy, guérissent et guérissent définitivement.
Alors, sa dernière question est de savoir, est-ce que toute maladie de l'estomac peut aboutir à une perforation intestinale?
Non. Je vais rassurer Papy. Une dyspepsie ou une gastrite non ulcéreuse, on peut les soigner, ça ne va pas aboutir vers une perforation. Un ulcère qu'on prend très bien en charge, l'intérêt de l'émission, c'est ça, c'est d'essayer d'anticiper, de ne pas en arriver là, puisqu'on connaît les causes. Il faut pas négliger une douleur de l'estomac. Vous parlez, vous dites que vous avez l'estomac depuis plusieurs mois, plusieurs années. À un moment, il faut se décider d'aller voir le docteur qui va faire le point et il va décider de savoir s'il y a besoin de faire une endoscopie. Il faut savoir la cause, parce que là, si on laisse couler, passer un ulcère, une plaie qui traîne depuis un petit moment, d'abord, un ulcère, ça peut se cancériser au niveau de l'estomac. Donc, vous prenez un risque. Et cet ulcère, d'autre côté, peut se perforer. Vous prenez un risque d'avoir une opération qui peut être lourde, une longue hospitalisation et qui peut se compliquer.
Voilà. Un autre auditeur nous a écrit sur la page Facebook de l'émission Alliance. Il dit que l'ankylostome duodénalis qui s'accroche au niveau de la muqueuse est l'une des causes des perforations intestinales.
Donc, voilà. L'ankylostome, c'est un peu comme les trichocéphales. En fait, c'est des parasites qu'on peut avoir dans les intestins. Et certains parasites ont parfois une certaine facilité à migrer vers le haut. Et leur particularité, c'est qu'ils s'accrochent. Imaginez que vous ayez des ongles. Ils s'accrochent contre le mur, contre la paroi de l'intestin. Mmh. Et donc, la première chose qu'ils provoquent en général, c'est des micro-saignements. Ils peuvent donc provoquer parfois des anémies, parce que c'est des petits saignements chroniques, anciennes, qui peuvent provoquer donc des anémies. Ils peuvent provoquer des ulcères, puisqu'ils s'accrochent, ceux-là, donc peut provoquer. Et troisièmement, ils peuvent boucher même, parce qu'ils se progressent parfois en groupe, peuvent boucher le passage. Mmh. J'en ai déjà vu une occlusion par rapport à un bouchon des parasites, et beaucoup plus rarement, en tout cas je dois dire, beaucoup plus rarement, en grattant, en provoquant une ulcère, tout ce qui peut provoquer un ulcère, l'ulcère, s'il n'est pas bien soigné, peut aller vers une perforation. C'est quand même une cause rare.
Docteur Mukalenga Richard est en ligne depuis Kinshasa. Bonjour docteur.
Bonjour Soudi, bonjour docteur Soudi.
Bonjour docteur.
Alors, je voudrais demander au docteur Soudi, qu'est-ce qu'il peut dire des gens qui, sachant qu'ils font l'ulcère ou bien la gastrite, mais ils n'ont que l'aspirine lui ou leur prescrit par le médecin qui lui dit il n'y a que ça, il faut prendre ça à partir d'aujourd'hui. Et puis eux, se connaissant bien, ils enrobent leur comprimé dans le foufou, dans la chiquangue, et les avalent après. Merci.
Il parlait de quel médicament d'aspirine?
De l'aspirine enrobée dans le foufou, dans la chiquangue.
Okay. Alors, je vais aller plus loin. Merci.
Ils font ça, ils ont le résultat.
D'accord.
L'estomac ne brûle pas.
Voilà, je vais aller plus loin, cher confrère. Merci de votre question. Les anti-inflammatoires ou l'aspirine, d'abord, ils agissent pour créer un ulcère. On va parler d'abord des symptômes et de ce qu'ils peuvent provoquer. Au niveau symptômes, le patient est consulté peut-être pour les brûlures. Mais il faut savoir pourquoi il a des brûlures. S'il a des brûlures simplement parce qu'il y a un problème de fonctionnement de l'estomac, tout médicament qui va réduire le contact avec la paroi va améliorer les brûlures. C'est dans ce sens-là qu'on prend du Maalox, qu'on prend du Gaviscon, qui sont des antiacides. Ces médicaments se mélangent en fait avec le liquide de l'estomac, donc ils réduisent l'acidité et donc ils améliorent les brûlures. Tout la question, c'est de savoir, les brûlures étaient simplement le fait de l'huile du liquide. Est-ce que derrière les brûlures, il y avait un ulcère? Voilà, ça, c'est la deuxième, le deux points importants. Lorsqu'ils prennent l'aspirine, pour une autre cause, je présume, docteur, une autre cause qui ne supporte pas leur aspirine, pour les patients, par exemple, qui ont des maladies cardiaques, on va dire, prenez l'aspirine junior, des choses comme ça. Et que donc, ils tolèrent pas leur aspirine. Donc, on va dire, une fois qu'on s'est assuré qu'ils n'ont pas des maladies de la paroi et qu'ils ont besoin de leur aspirine, qui a quand même montré un intérêt pour la protection du cœur, on va leur donner des astuces pour qu'ils tolèrent bien leur aspirine. On va leur donner l'aspirine, éventuellement enrobée, pour améliorer la tolérance. Là, je suis d'accord. Mais une fois qu'on s'est mis sous aspirine comme ça et le patient n'a pas toléré, il a eu des brûlures, ça veut dire qu'il a des symptômes. Un patient qui a 50 ans ou plus, à qui vous imaginez de mettre sous aspirine au long cours, à vie? Je pense que c'est une faute de lui demander d'enrober son aspirine sans avoir préalablement vérifié son estomac. Parce que si vous lui donnez un médicament qui tolère mieux son aspirine dans le foufou et que derrière il y avait un ulcère, son ulcère va continuer. Alors il va mieux tolérer son aspirine, n'aura plus de brûlure, mais vous verrez ce patient un jour avec une complication de son ulcère ou une perforation ou un cancer de l'estomac. Et je peux vous dire que c'est une situation très fréquente dans ma pratique. L'autre chose que je voulais dire, les anti-inflammatoires et l'aspirine, quelle que soit la voie d'administration, vous mettez une fois une pommade anti-inflammatoire sur la main. J'ai bien dit une fois. Cette pommade, par la peau, rentre. Il y a des vaisseaux qui récupèrent le produit. Ça rentre dans le sang. Les anti-inflammatoires, l'aspirine, agissent par contact direct au niveau de l'estomac, mais ils agissent aussi par voie, ce qu'on appelle systémique, par le sang. C'est-à-dire une fois qu'ils passent dans le sang, je ne vais pas aller dans le détail, mais ça entraîne une cascade de fabrication de prostaglandines dans le corps qui va finir par fabriquer un ulcère de l'estomac. Donc, quand j'ai mes assistants, je leur explique les causes d'ulcères, je leur dis, fouillez jusque dans les 3 mois qui ont précédé. Souvent, les gens, ils ont oublié qu'ils ont mis une pommade sur une entorse de la cheville, une fois, parce que pour eux, ça ne peut pas avoir un lien avec l'estomac, alors que ça peut provoquer un authentique ulcère de l'estomac. Voilà, il y a la voie directe. Donc, on enrobe avec le foufou, parce que le patient, une fois qu'on lui a fait une endoscopie, son estomac est normal, il n'y a pas d'ulcère, je suis d'accord, on peut lui donner son aspirine, enrobé dans le foufou, on va améliorer la tolérance, sans risque de faire développer une autre maladie.
Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les perforations intestinales, docteur?
Voilà, donc il faut faire simple, toujours, hein, je dis, vous avez une gastrite ou une gêne au niveau de l'estomac qui traîne, parlez-en à votre médecin, c'est d'une facilité, parce que déjà, on peut avoir quelque chose de plus important que vous tolérez. Le docteur va vous examiner, il va dire s'il y a besoin de médicaments ou besoin d'un examen. Des douleurs qui deviennent de plus en plus chroniques, surtout traînez pas avec ça. Je viens de parler d'une infection qu'on appelle l'hélicobactère pylori, qui est très fréquente chez nous et qui est cause d'ulcères, qui est cause des cancers. Donc, ne vous faites pas avoir. Parlez-en au médecin, il verra s'il y a besoin de le faire. Vous avez toujours eu de petites douleurs, de temps en temps, et qui brusquement devient brutale, intense. Ne restez pas avec à la maison, parce que on peut être vers une perforation, ou vous êtes déjà en perforation. Le plus tôt vous verrez le médecin, le plus tôt vous serez pris en charge, et le plus tôt vous serez soigné, voire opéré fréquemment, et c'est une maladie qu'on va guérir. Alors que si vous ne respectez pas ces étapes, c'est un pronostic vital qui est mis en jeu, vous pouvez en mourir. C'est vraiment dommage de mourir d'une perforation d'un ulcère, si a fortiori c'est un ulcère qui n'était pas cancéreux, alors qu'on peut vous opérer. On peut éviter l'opération, mais on peut vous opérer et vous guérir.
Bien, docteur Antoine Chimpi, spécialiste en gastro-entérologie, merci.
Merci beaucoup, merci et bonne journée.